Par un tranquille dimanche d'avril, où je me trouvais seul dans la résidence, les filles étaient je ne sais où avec leurs copines et Michel déjeunait avec des amis, j'ai décidé de descendre travailler au rez-de-chaussée. Il faisait assez frais, un peu plus de 15 degrés, le ciel était nuageux avec quelques éclaircies, et en passant par la colonnade, j'ai pris le temps de contempler les somptueux massifs de tulipes jaunes, rouges et roses que les jardiniers avaient créés dans la roseraie. Il était rare que je travaille dans le bureau ovale le week-end, car il y avait régulièrement des visites de l'aile ouest, et les curieux n'étaient autorisés à écarter le rideau rouge masquant l'entrée du bureau que si je n'y étais pas. J'allais donc souvent m'installer dans la salle à manger adjacente, une pièce confortable et privée, remplie de souvenirs accumulés au fil des ans. La couverture du numéro de Life représentant la marche de Selma est dédicacée par John Lewis, une brique du cabinet d'avocat d'Abraham Lincoln à Springfield, dans l'Illinois, une paire de gants de boxe ayant appartenu à Mohamed Ali, un tableau peint par Ted Kennedy de la côte de Cape Cod qu'il m'avait offert parce que je l'avais admiré dans son bureau. Mais lorsque le soleil a transpercé les nuages et éclaboussé la pièce, je suis sorti sur la terrasse de la salle à manger, un joli espace tranquille avec des haies et des plantes d'un côté et une petite fontaine de l'autre. J'avais apporté une pile de mémos à lire, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je venais d'annoncer que je briguais un second mandat. Ce n'était guère qu'une formalité, quelques papiers à remplir et une petite vidéo à tourner. Rien à voir avec la journée aussi glaciale que galvanisante où, 4 ans plus tôt à Springfield, j'avais déclaré ma candidature devant des milliers de personnes à qui je promettais l'espoir et le changement. J'avais l'impression que cela remontait à une éternité et appartenait à une époque pleine d'optimisme, de jeunesse, d'énergie et d'une indéniable innocence. Cette nouvelle campagne serait radicalement différente. Assuré de ma vulnérabilité, les Républicains se battaient déjà pour avoir une chance de s'opposer à moi. J'avais remarqué que mon équipe politique avait commencé à insérer dans mon emploi du temps quelques premières collectes de fonds, anticipant une compétition coûteuse et brutale. Une partie de moi répugnait à l'idée de me lancer si tôt dans la course, car si ma première campagne semblait parfois un lointain souvenir, mon travail de président, lui, venait tout juste de commencer. Mais il était inutile d'ergoter, les sondages parlaient d'eux-mêmes. Comble de l'ironie, notre labeur des 2 dernières années portait enfin ses premiers fruits. Au cours des mois écoulés, quand je n'étais pas accaparé par des questions de politique étrangère, j'avais sillonné le pays pour mettre sous le feu des projecteurs les usines automobiles qui venaient de rouvrir, les petites entreprises qui avaient été sauvées, les fermes d'éoliennes et les nouveaux véhicules qui ouvraient la voie à un avenir où l'énergie serait propre. Les grands chantiers financés par le Recovery Act, routes, centres sociaux, transports ferrés urbains, étaient bien avancés ou déjà achevés. Une foule de dispositions de l'Affordable Care Act était rapidement entrée en vigueur. Par bien des aspects, nous avions rendu l'administration fédérale plus vertueuse, efficace et réactive. Mais cela n'aurait aucun effet sur l'opinion tant que la croissance n'aurait pas réellement repris. Jusque-là, nous avions réussi à éviter une deuxième récession en W, grâce notamment aux milliards de dollars de relance imposés en contrepartie de l'extension des allègements fiscaux Bush à la fin de la précédente session parlementaire. Mais cela s'était joué à peu, et la nouvelle majorité à la Chambre semblait bien décidée à inverser la tendance économique. Dès l'instant où il avait accédé à la présidence de la Chambre, en janvier, John Boehner avait martelé que les Républicains tiendraient leurs promesses de campagne en mettant fin à ce qu'il appelait « 2 années de dépenses démentes et catastrophiques pour l'emploi ». Paul Ryan, le président de la commission budgétaire de la Chambre, s'exprimant à la suite de mon discours de 2011 sur l'état de l'Union, avait prédit que, du fait de ces dépenses non maîtrisées, la dette fédérale submergerait bientôt toute notre économie et atteindrait un niveau dramatique dans les années à venir. Les nouveaux entrants dans les rangs du GOP, souvent élus sur le programme du Tea Party, faisaient pression sur Boehner pour un dégraissage immédiat, drastique et définitif de la fonction publique fédérale, dégraissage qui, selon eux, devrait enfin restaurer l'ordre constitutionnel aux États-Unis et reprendre leur pays aux élites politiques et économiques corrompues. Sur le plan purement comptable, la Maison-Blanche était convaincue que les coupes budgétaires voulues par le GOP provoqueraient un désastre total. Le taux de chômage avoisinait encore les 9%. L'immobilier n'était pas reparti. Les Américains continuaient à essayer de se dépêtrer avec les dettes et les crédits à la consommation accumulés au cours des 10 dernières années et dont le montant total s'élevait à 1100 milliards de dollars. Des millions de personnes devaient rembourser des hypothèques supérieures à la valeur de leur maison. Quant aux entreprises et aux banques, elles faisaient face au même surendettement et réfléchissaient à 2 fois avant d'investir ou de contracter de nouveaux prêts. Il est vrai que le déficit fédéral avait bondi depuis mon entrée en fonction, en grande partie parce que les rentrées fiscales avaient baissé tandis que les politiques sociales augmentaient à la suite de ce qu'on appelait désormais la Grande Récession. À ma demande, Tim Geithner était déjà en train de réfléchir à des moyens de ramener le déficit à son niveau d'avant la crise, une fois que l'économie aurait rebondi. J'avais aussi créé une commission menée par Erskine Bowles, ancien directeur de cabinet de Clinton, et Alan Simpson, ancien sénateur du Wyoming, pour imaginer un plan de réduction à long terme du déficit et de la dette. Mais pour l'heure, le mieux à faire était de stimuler la croissance économique, et vu la faiblesse de la demande agrégée, cela supposait d'augmenter les dépenses au niveau fédéral, non de les restreindre. Le problème était que j'avais perdu cette bataille à la mi-mandat, ou du moins était-ce l'avis des personnes qui avaient daigné se rendre aux urnes. Non seulement les républicains pouvaient argumenter qu'ils se contentaient d'exécuter la volonté des électeurs en tranchant dans les dépenses, mais depuis l'élection, tout Washington semblait être soudainement devenu allergique au déficit. La presse avertissait que les États-Unis vivaient au-dessus de leurs moyens. Les commentateurs déploraient les dettes que nous allions léguer aux générations futures. Même Wall Street et les grandes entreprises, qui avaient amplement bénéficié directement ou indirectement du sauvetage du système financier, avaient le culot de se joindre au cœur des anti-déficits en déclarant qu'il était grand temps que les politiciens de Washington aient le courage de couper les vannes de l'assistanat, terme fourre-tout rassemblant Medicare, Medicaid et tous les autres programmes composant la couverture sociale. Cependant, peu d'entre eux se montraient disposés à sacrifier leurs propres abattements pour résoudre la prétendue crise. Lors de notre première escarmouche avec Boehner, au sujet des niveaux de financement pour la fin de l'exercice 2011, nous avions réussi à limiter les coupes budgétaires à 38 milliards, un montant suffisant pour qu'il revienne victorieux auprès de son groupe conservateur, même s'il visait le double au départ, mais assez faible dans un budget de 3 600 milliards pour éviter tout risque économique. D'autant que, pour une bonne part, ces coupes n'étaient que des tours de passe-passe comptables qui n'empiétaient pas sur les programmes et services essentiels. Mais Boehner nous avait prévenu que les républicains n'en avaient pas fini, suggérant même que son groupe pourrait refuser d'accorder les voies nécessaires à l'augmentation du plafond d'endettement réglementaire si nous ne satisfaisions pas leurs exigences futures. De notre côté, nous ne pensions pas que le GOP irait jusqu'à se montrer aussi irresponsable. Le rehaussement du plafond de la dette était une procédure standard, à laquelle se pliaient les deux parties et qui servait à financer ce qui avait déjà été approuvé par le Congrès. S'il n'était pas voté, cela signifierait que, pour la première fois de leur histoire, les États-Unis se retrouveraient en défaut de paiement de leurs dettes. Pourtant, le fait même que Boehner ait mis sur la table une idée pareille, et le fait qu'elle ait rapidement trouvé des relais chez les membres du Tea Party et dans les médias conservateurs, laissait entrevoir ce que les républicains nous réservaient. Je me demandais si, dorénavant, ma présidence allait se réduire à mener des combats d'arrière-garde pour empêcher les républicains de saborder l'économie américaine et de défaire tout ce que j'avais fait. Pouvais-je vraiment espérer trouver un terrain d'entente avec un parti dont le principe unificateur, l'objectif primordial, se résumait progressivement à s'opposer à moi? Ce n'était pas pour rien que, lorsqu'il avait présenté notre récent accord budgétaire à son groupe, Boehner avait tenu à lui faire comprendre combien j'étais « en colère » pendant les tractations. Une fiction commode que j'avais demandé à mon équipe de ne pas contester pour ne pas nous laisser déconcentrer. Aux yeux de son groupe, c'était le meilleur argument qui soit. En fait, je remarquais de plus en plus que l'état d'esprit que nous avions vu apparaître dans les derniers jours de la campagne de Sarah Palin, puis tout au long de l'été du Tea Party, s'était déplacé des marges du GOP jusqu'à son centre. Une réaction émotionnelle, presque viscérale à ma présidence, indépendante de nos divergences politiques et idéologiques. À croire que ma seule présence à la Maison-Blanche avait provoqué une panique profonde, un sentiment que l'ordre naturel avait été perturbé. Et cela, Donald Trump le comprenait parfaitement lorsqu'il a commencé à prétendre que je n'étais pas né aux États-Unis et que j'étais donc un président illégitime. Aux millions d'Américains terrifiés d'être dirigés par un noir, il a offert un élixir contre leurs angoisses raciales. Il n'était toutefois pas le premier à insinuer cela. Depuis 2004 et ma campagne sénatoriale dans l'Illinois, il y avait toujours au moins un hurlu-berlu conservateur pour soutenir cette théorie. Pendant la primaire, des partisans déçus de Hillary l'avaient eux aussi fait circuler, malgré la franche désapprobation de la direction de la campagne. Et des blogueurs et des personnalités médiatiques conservatrices s'en étaient saisis, ce qui avait donné lieu à des chaînes d'emails effrénées dans les cercles militants de droite. Lorsque le Tea Party l'a attrapé au vol durant ma première année de mandat, l'insinuation s'est échangée en authentique théorie du complot. En plus d'être né au Kenya, j'étais un socialiste musulman, un pantin des puissances ennemies, formaté depuis l'enfance et introduit aux États-Unis grâce à des documents falsifiés dans le but d'infiltrer le sommet de l'État. Mais il a fallu attendre le 10 février 2011, veille de la démission de Hosni Moubarak en Égypte, pour que cette théorie absurde trouve un véritable écho. Lors d'un discours à la Conservative Political Action Conference, Trump a laissé planer la possibilité qu'il se présente à la présidentielle, affirmant que notre président actuel est sorti de nulle part. Les gens qui étaient à l'école avec lui, ils ne l'ont jamais vu, ils ne le connaissent pas. C'est fou. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Ma biographie était amplement documentée. Mon acte de naissance était enregistré à Hawaï et nous l'avions publié sur mon site internet en 2008 pour contrer la première vague de ce mouvement de remise en question de la citoyenneté qui allait prendre le nom de « birtherism ». Mes grands-parents conservaient dans leurs archives l'encart du Honolulu Advertiser, daté du 13 août 1961, qui annonçait ma naissance. Enfant, sur le chemin de l'école, je passais tous les jours devant le centre médical Kapi'olani, où ma mère m'avait donné la vie. Quant à Trump, je ne l'avais jamais rencontré, mais j'avais pris vaguement conscience de son existence au fil des ans. Il avait d'abord été un promoteur immobilier avide d'attention. Ensuite, et de manière plus inquiétante, l'homme qui s'était jeté sur l'affaire dite des Central Park Five, quand, en réaction à la condamnation de 5 adolescents noirs et hispaniques incarcérés pour avoir agressé et violé une joggeuse blanche, avant d'être finalement innocenté, il avait acheté des pages entières dans de grands journaux pour réclamer le retour de la peine de mort. Et enfin, une célébrité de la télévision se mettant en avant, avec sa marque, comme le parangon de la réussite capitaliste et de la consommation éhontée. Pendant l'essentiel de mes deux premières années à la Maison-Blanche, Trump n'avait apparemment rien eu à reprocher à ma présidence, déclarant dans le magazine Bloomberg « Je crois qu'il fait du très bon travail dans l'ensemble. Et si j'avais du mal à le prendre trop au sérieux, c'est peut-être parce que je regardais peu la télévision. » Tous les promoteurs et chefs d'entreprise new-yorkais que je connaissais me le décrivaient comme un type qui brassait de l'air, laissait derrière lui un sillage de faillites, de contrats rompus, d'employés floués et d'arrangements financiers douteux, et dont l'activité consistait en grande partie à monnayer son nom à des entreprises dont il n'avait ni la propriété ni la gérance. En réalité, mon unique contact avec Trump avait eu lieu indirectement pendant la crise de Deepwater Horizon, quand il avait appelé Axe à l'improviste pour suggérer que je le charge de colmater le puits. Informé que le puits serait bientôt rebouché, Trump avait alors changé son fusil d'épaule. Ayant noté que nous avions récemment organisé un dîner officiel sous une tente sur la pelouse sud, il avait dit à Axe qu'il se ferait un plaisir de construire une magnifique salle de bal dans les jardins de la Maison-Blanche, une offre que nous avions poliment déclinée. Ce que je n'avais pas prévu, c'est la réaction de la presse aux soudaines insinuations de Trump sur mes origines. J'avais mésestimé la confusion des genres entre information et divertissement, ainsi que la sauvagerie de la course à l'audience qui poussait les médias à rivaliser pour offrir une tribune à des discours sans fondement. Bien entendu, tout est parti de Fox News, une chaîne qui avait justement bâti sa puissance et sa richesse sur la xénophobie et les rancunes que Trump entendait attiser. Soir après soir, ses animateurs les plus populaires lui déroulaient le tapis rouge. Dans The O'Reilly Factor, face à l'éditorialiste Bill O'Reilly, Trump a déclaré « Pour être président des États-Unis, il faut être né dans ce pays, et on n'est pas sûr que ce soit le cas pour lui. Il n'a pas d'acte de naissance. » Dans la matinale de la chaîne Fox and Friends, il a sous-entendu que l'encart annonçant ma naissance pouvait être un faux. En fait, Trump passait tellement de temps sur Fox News qu'il s'est bientôt senti obligé de renchérir en soutenant qu'il y avait quelque chose de louche dans mon admission à Harvard, étant donné que j'avais de très mauvaises notes au lycée. À l'éditorialiste Laura Ingraham, il a affirmé que Bill Ayers, mon voisin à Chicago et ancien militant de la gauche radicale, était le véritable auteur des « Rêves de mon père », car une personne de mon niveau intellectuel n'aurait jamais pu écrire un livre aussi bon. Mais il n'y avait pas que Fox. Le 23 mars, juste après notre entrée en guerre contre la Libye, invité dans l'émission The View sur ABC, Trump a dit « Je veux qu'il montre son acte de naissance, il y a quelque chose là-dessus et il ne veut pas que ça se sache. » Sur NBC, la chaîne qui diffusait son émission de télé-réalité The Celebrity Apprentice et n'était visiblement pas mécontente de la publicité que lui faisait son présentateur vedette, Trump a annoncé sur le plateau de Today, une matinale très regardée, qu'il avait envoyé des détectives à Hawaï pour retrouver mon acte de naissance. « J'ai des gens qui sont en train de l'étudier et ils découvrent des choses incroyables. » Un peu plus tard sur CNN, il a dit à Anderson Cooper « J'ai appris très récemment que son acte de naissance était introuvable. J'ai appris qu'il n'est pas là, qu'il n'existe pas. » En dehors de la galaxie Fox News, je dois admettre que les journalistes des grandes chaînes n'accordaient pas beaucoup de foi à ces étranges accusations. Ils exprimaient tous une incrédulité polie en demandant par exemple à Trump pourquoi, selon lui, personne n'avait jamais réclamé à George Bush et à Bill Clinton leurs actes de naissance. À quoi ils répondaient généralement quelque chose comme « Tout le monde sait qu'ils sont nés dans ce pays ». Mais à aucun moment, ils ne lui ont rétorqué simplement et sans détour qu'il mentait ou que la théorie du complot dont il se faisait le porte-voix était raciste. Ils n'ont pas fait le moindre effort pour reléguer ces théories au même rang que des inepties comme les enlèvements par les extraterrestres ou les conspirations antisémites telles que le protocole des sages de Sion. Et plus les médias leur donnaient d'oxygène, plus ces allégations paraissaient dignes d'y avoir leur place. La Maison-Blanche n'avait pas fait l'honneur à Trump d'opposer un démenti officiel à ces mensonges, car nous refusions de lui donner encore plus d'attention et avions bien mieux à faire. Au sein de l'aile ouest, le birtherisme était considéré comme une mauvaise blague, et les plus jeunes se raccrochaient aux émissions du soir qui malmenaient The Donald. Mais j'étais bien forcé de remarquer que les médias ne se contentaient pas d'interviewer Trump. Ils couvraient aussi toutes ses incursions en politique, y compris ses conférences de presse et son voyage dans l'État du New Hampshire, l'un des premiers à voter pour la primaire. Les sondages montraient que 40% des Américains étaient désormais convaincus que je n'étais pas né aux États-Unis, et Axe m'avait récemment raconté que, d'après un sondeur républicain qu'il connaissait, Trump était en tête des candidats républicains potentiels, sans même avoir annoncé sa candidature. J'ai préféré ne pas en informer Michel. Trump et la relation de symbiose qu'il entretenait avec les médias la mettaient hors d'elle. Elle voyait clair dans tout ce cirque qui n'était qu'une variante de leur obsession pour les pins en forme de drapeau et les tchèques pendant la campagne, de la légèreté avec laquelle adversaire et journaliste accréditaient l'idée que son mari était un autre, suspect et malfaisant. Elle m'avait expliqué que les problèmes que lui posaient Trump et le birtherisme n'étaient pas liés à mon avenir politique, mais à la sécurité de notre famille. Les gens croient que c'est un jeu, ils se fichent de savoir que des milliers d'hommes qui possèdent des armes prennent tout ce qu'ils racontent pour argent comptant. Je ne l'ai pas contredite. Il était évident que Trump se fichait de propager des théories conspirationnistes qui pouvaient avoir des conséquences graves et qu'il savait très certainement fausses tant que cela servait ses objectifs. Il avait compris que tous les garde-fous qui encadraient autrefois le discours politique avaient sauté depuis longtemps. De ce point de vue, il n'y avait pas grande différence entre Trump et Boehner ou McConnell. Eux aussi comprenaient que la véracité de leur discours importait peu. Ils n'étaient pas obligés de croire sincèrement que je menais le pays à la faillite ou que l'Obamacare encourageait l'euthanasie. Au fond, l'unique différence entre Trump et eux était le caractère totalement décomplexé du premier. Il saisissait d'instinct ce qui mobilisait la base conservatrice et il le lui servait sur un plateau. J'avais beau douter qu'il soit prêt à abandonner les affaires ou à se soumettre aux examens par lesquels devaient passer les candidats à la présidence, je savais que tout le restant de mon mandat, je serais en butte aux passions qu'il exploitait, aux récits lugubres et alternatifs qu'il répandait et légitimait. Mais je me suis dit que j'aurais tout le temps de penser aux républicains plus tard, ainsi qu'au budget, à ma campagne et à l'état de la démocratie américaine. Car malgré tous les sujets que je ruminais, je savais qu'une chose et une seule allait réclamer toute mon attention au cours des semaines à venir. J'allais devoir décider de déclencher ou non une opération au cœur du Pakistan contre une cible que nous pensions être Oussama Ben Laden. Et quoi qu'il arrive par ailleurs, si j'échouais, ce mandat risquait fort d'être mon dernier.